Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Retour dans le débat de ce soir sur un duo qui fait régulièrement la une en France, l'argent et les politiques. Il y a quelques jours, on apprenait qu'après réévaluation de son patrimoine, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, allait devoir payer l'ISF, le fameux impôt sur la fortune. Un symbole, puisque cet impôt ne touche en France que les contribuables dont le patrimoine dépasse 1 300 000 euros. L'information a déclenché les passions. Et alors, on dit les uns, il n'y a rien d'immoral. Dérangeant, ont répondu les autres. Voyons un nouvel exemple de la déconnexion des élites politiques. Une supposée déconnexion dont Emmanuel Macron, l'ancien banquier qui conseillait il y a encore quelques jours à deux hommes de travailler pour se payer un costard, a fait les frais aujourd'hui encore, accueilli par des G2 lors d'un déplacement en région parisienne. Alors les hommes et les femmes politiques français sont-ils déconnectés, trop riches pour gouverner? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités en direct de Bordeaux avec nous par téléphone. Michel Delaunay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste de la Gironde et vous êtes aussi ancienne ministre. Vous étiez ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie dans le gouvernement Hérault. Autre député dans ce studio, cette fois Christophe Carège, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et puis notre troisième invité s'appelle Philippe Pascaud, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Vous êtes ancien adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Evry, ancien conseiller régional et puis l'auteur de deux ouvrages au titre évocateur, Pilleur d'État et Délit d'élu aux éditions Max Milo. Alors Philippe Pascaud.
Et un troisième qui s'appelle Du goudron et des plumes.
Exactement, c'est le tome 2 d'ailleurs. Voilà. Je l'ai parcouru. Philippe Pascaud, que vous ont inspiré les récentes révélations sur Emmanuel Macron, donc qui relèvent à la semaine dernière, mais qui sont, j'allais dire, réactualisées tous les jours?
Je trouve qu'Emmanuel, il a été très très mal conseillé, parce que dans son association de financement de son parti politique, il y a un dirigeant de la BNP, un des grands patrons. Ils auraient dû lui expliquer quand même que sur sa déclaration, il devait déclarer l'ISF. Mais plus prosaïquement, une fois plus, malheureusement, ces gens-là nous prennent pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils savaient qui devait être l'ISF. C'est du maquillage. Et ces gens-là maquillent pour faire croire au peuple qu'ils sont du côté du peuple. Et ça, ce n'est malheureusement plus tolérable.
Alors, ce n'est pas ce que dit Emmanuel Macron, qui lui dit que c'est un contentieux régulier, d'ailleurs assez
classique. Mais Cahuzac disait aussi qu'il n'avait pas de compte en banque en Suisse. Hein. Thévenoud disait aussi que c'était un oubli. Monsieur le sénateur Tian, qui avait 1,5 million de planqués en Suisse, lui aussi disait que c'était pas de sa faute.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on est à la limite de l'illégalité dans ce cas-là, selon
vous ?
On est
complètement dans la légalité immorale. Je dis bien dans la légalité immorale. Et ces gens-là qui font les lois, se font des lois immorales.
Alors, Michel...
Pas tous, hein, je précise bien, pas tous. Tous les élus ne sont pas pourris, tous les élus ne sont pas dans ce cas-là. Mais il y a un certain nombre d'élus qui font tâche et qui font honte à l'ensemble des autres politiques.
Mais en l'occurrence, pour vous, Emmanuel Macron est...
Mais oui, attendez, Emmanuel Macron... Emmanuel Macron qui est du côté du peuple, qui va le croire?
Et peut-être
ça,
Christophe Carèche, une première réaction.
C'est un autre sujet, moi je propose de
tout
pas
à
tout...
Fait.
Tout mélanger. Concernant Emmanuel Macron, il faut plutôt se réjouir de ce qui s'est passé. Parce que ça veut dire que les dispositifs qu'on a mis en place sont efficaces. Que s'est-il passé? Les ministres aujourd'hui, comme les députés d'ailleurs, les parlementaires et les élus, sont tenus de déclarer leur patrimoine à une autorité indépendante qui s'appelle la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique. Eh bien, cette autorité a fait son travail et effectivement, elle a évalué la déclaration de Monsieur Macron et de l'ensemble des ministres. Et elle a considéré effectivement que l'évaluation n'était pas la bonne. Elle a transmis ces informations à l'administration fiscale. Et Emmanuel Macron a vu sa situation fiscale redressée. Honnêtement, il n'y a rien là-dedans de répréhensible, de scandaleux. Mais tout simplement, la haute autorité a fait son travail. Je rappelle que cette haute autorité, nous l'avons créée dans cette mandature, que tous les patrimoines maintenant des élus sont tenus d'être déclarés, que les élus doivent aussi déclarer ce qu'on appelle leur déclaration d'intérêt, c'est-à-dire les éventuels conflits d'intérêts avec des proches. Bref, il y a maintenant quand même un certain nombre d'éléments nouveaux et qui, je pense, vont dans le bon sens. Donc le fait que M. Macron, ça n'a pas dû être très, très agréable pour lui, mais le fait que cette situation ait été révélée montre plutôt que la démocratie fonctionne bien.
Christophe... Alors Michel Delaunay, ouais. Je voudrais quand même vous demander votre avis, puisque vous avez été un petit peu comme Emmanuel Macron. Votre patrimoine a été rendu public.
absolument aucun redressement. J'ai rendu en tant que ministre mon patrimoine public, mais ce patrimoine avait été approuvé par les services fiscaux. Il n'y a eu aucune régularisation à faire. Mais je suis complètement de l'avis de Christophe Caresche. Cela montre que cette institution que nous avons créée fonctionne. Cependant, et je le dis aussi, je viens de faire une interpellation auprès du ministre du Budget, cette institution, donc pour la transparence de la vie politique, n'a pas suffisamment de moyens. Et aujourd'hui, de très nombreux élus relevant de sa compétence n'ont toujours pas eu ce contrôle, le mot est sévère, mais cette approbation ou au contraire redressement de leurs comptes par manque de moyens. Et je viens donc de publier une question écrite au gouvernement dans ce sens.
Oui, mais... Alors Philippe Pascaud, est-ce que là-dessus vous pouvez pas trouver un terrain d'entente en disant finalement c'est aussi le signe d'une efficacité, mais les moyens ne sont pas encore assez importants pour que chaque élu puisse...
À chaque fois qu'il y a ce genre de choses, les moyens ne sont pas là. Donc c'est un peu facile, et je rejoins pas tout à fait Christophe ni Michel, de dire que le système va bien parce qu'il y en a un ou deux qui s'est fait piquer la main dans le sac. Je veux dire, moi ce que je préférerais, c'est ces gens-là, avant de se faire piquer la main dans le sac, parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit contrôle, et on peut reparler en plus de la commission de la Haute Autorité, qui à mon avis est un petit peu bidon, ne peut pas contrôler tout le monde et ne contrôle pas tout le monde, y compris dans la déclaration d'intérêt et d'activité des députés, qui est une honte de la façon dont elle a été remplie par les parlementaires, parce qu'il y en a au moins 60% qui n'ont pas rempli ce truc-là, qui peuvent être condamnés. Moi, ce que je préférais, c'est que ces gens-là soient exemplaires. Et plutôt que de dire, ouais, la démocratie fonctionne bien parce qu'on a réussi à en piquer un ou deux.
Alors, on va venir peut-être aux solutions pour que
les gens... soient exemplaires, déjà.
Christophe Carré, je vais vous y répondre.
Moi, je respecte totalement le travail de Monsieur Pascaud, parce que je pense que c'est tout à fait utile et que la lutte contre la corruption doit être une priorité absolue. Parce qu'on voit bien que la démocratie est aujourd'hui touchée.
Corruption et abus, Christophe.
Par abus, corruption. La démocratie aujourd'hui est menacée par ces situations. Donc moi, je suis le premier, et comme responsable politique, à dire qu'il faut aller le plus loin possible. Il faut aussi, je le dis vraiment, reconnaître les efforts quand ils sont faits, les réponses quand elles sont données. On a donné une réponse, par exemple, à l'affaire Cahuzac, puisque c'est vrai que la création de cette haute autorité a été en partie liée à la révélation de cette affaire. Et à ce moment-là, le président et le gouvernement ont dit on ne peut pas continuer comme cela. On a créé la haute autorité. Aujourd'hui, on est en train d'examiner la loi Sapin 2, avec là aussi des mesures tout à fait concrètes et qui sont, à mon avis,
quelles mesures
contraignantes. Eh ben, par exemple, la création d'une agence de lutte contre la corruption, qui va remplacer un service qui était très déficient jusqu'à présent, avec des moyens importants, avec des moyens juridiques importants, avec une garantie en termes d'indépendance. Bref, avec toute une série d'éléments qui vont permettre de lutter plus efficacement contre la corruption. Je dis pas que tout est fait, mais je crois aussi, dans cette ambiance aujourd'hui quand même, de délitement...
Il faut dire ça va mieux.
Il faut pas dire ça. Enfin, il faut reconnaître quand des choses sont faites. Ouais. Moi, j'insiste là-dessus, parce que sinon, on participe tous à cette défiance vis-à-vis de la politique et qui ne me paraît pas être une bonne chose.
Alors, Philippe Pascaud, avant de redonner la parole à Michel Delaunay.
Christophe, même si je suis entièrement d'accord avec vous et je remets pas en cause votre honnêteté, votre parcours. La loi sur le patrimoine, la déclaration du patrimoine. Est-ce que vous avez vu le parcours du combattant pour aller voir le patrimoine d'un élu? Non. Alors, excusez-moi. Attendez, je vous ai laissé parler. Le parcours du combattant. Non, mais je parle pas des ministres. Je parle des parlementaires. Le parcours du combattant pour aller voir. La loi est passée.
Ce que vous voulez dire, Philippe Pascaud, c'est qu'il y a une transparence qui existe, mais qu'elle est compliquée puisqu'on a difficilement accès aux documents.
Il faut être sur le département. Il y a quelqu'un derrière vous. Vous pouvez même pas le droit à un crayon. Si jamais vous divulguez le patrimoine d'un élu, vous êtes plus condamné qu'un élu qui fait quelque chose de faux.
Alors messieurs, je voudrais qu'on avance un petit peu parce que derrière cette question, il y a une autre question qui est celle de la supposée déconnexion de certaines élites politiques. Sur cette question, Michel Delaunay, vous avez une position très claire.
J'ai une position en effet très claire. La déconnexion peut être réelle quand quelqu'un n'a jamais exercer qu'une vie politique. La vie politique est à la fois très dure, mais elle est séduisante, et des jeunes qui s'y engagent très tôt, peuvent n'en pas bouger.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire quand quelqu'un commence en politique? Comment il est déconnecté, pour que ce soit clair pour nos auditeurs?
Eh bien, j'essaye de le rendre clair. La journée d'un politique qui ne fait que cela est très différente de celle d'un petit patron qui a un artisanat quelconque, d'un médecin des hôpitaux, avec des contraintes qui sont plus lourdes, plus pratique, plus concrète. Il y a vraiment, en effet, une assez réelle séparation, ne serait-ce que pour porter des sujets. On ne porte bien que des sujets que l'on connaît bien.
Et donc, vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, un élu, à partir du moment où il est élu, Christophe Caresche, quelle est, vous, votre position? À partir du moment où on entre en politique, on a un mandat, on a une voiture de fonction, des facilités, donc c'est difficile de comprendre.
Moi, j'ai pas de voiture de fonction, j'en ai jamais eu dans ma carrière politique. J'étais adjoint au maire de Paris, j'ai été député, enfin bon, bref. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une voiture de fonction.
C'est un exemple, c'est pas Christophe, tout ça, il y a plein d'autres avantages.
Non, mais je pose la question, c'est juste pour que les auditeurs comprennent la réalité de votre exercice aussi du pouvoir.
Oui, mais bien sûr, mais moi, j'ai l'impression d'avoir une vie assez j'ai la vie d'un cadre supérieur, puisque bon, l'indemnité de parlementaire, vous la connaissez. Moi, j'ai pas d'autre mandat. Tout ça est très confortable. J'ai pas de problème par rapport à cela. Mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir une vie totalement déconnectée des choses. Ce qui est vrai, Michel Delaunay a raison, il y a un débat qui doit être mené là-dessus, c'est qu'il y a une professionnalisation de l'activité politique qui peut, à un moment... Je crois pas que ça crée des problèmes de déconnexion. C'est surtout à un moment... qui peut entraîner effectivement, comment dirais-je, comme dans toute profession, j'allais dire, une forme d'accoutumance,
oui,
d'habitude,
que
de mauvaise habitude, etc.
C'est une profession bien particulière qui gère aussi la vie des gens.
Donc c'est pour ça que je ne nie pas le problème, mais je ne le relie pas nécessairement aux problématiques de corruption, etc. Je pense que c'est des choses différentes.
Alors Philippe Pascaud, vous voulez réagir, et ensuite Michel Delaunay.
Je suis d'accord avec Michel Delaunay. Il y a ce que j'appelle des élus qui sont de plus en plus complètement hors sol. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé et qui dirigent le pays, qui devraient nous montrer l'exemple, et qui savent même pas ce que c'est que de se lever le matin, qui savent pas ce que c'est. Ils ont commencé leur carrière dans la politique, ils continuent leur carrière dans la politique, ils ont des frais de représentation depuis qu'ils sont jeunes, ils payent pas leur restaurant, ils payent pas leur transport, ils sont les taxis qui sont remboursés, ces gens ne connaissent plus les vrais problèmes.
C'est un peu la question classique qu'on a entendue, combien coûte un ticket de métro?
Je le mets dans mes livres.
Baguette,
ces gens-là s'auto-protègent. C'est-à-dire que maintenant, ils votent de plus en plus des lois pour se protéger dans leur mirador. Moi, je trouve inadmissible l'argent au black, et je pèse mes mots, l'argent au black qu'ont certains parlementaires, députés et sénateurs, alors qu'ils nous demandent, nous, de faire des restrictions, et qu'ils font des lois pour le pauvre bonhomme qui va bosser le week-end pour gagner 150 euros au black. Lui, on va mettre des inspecteurs pour
le
contrôler.
Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez en l'espèce, donc on va donner la parole à Michel Delaunay, qui veut réagir sur cette notion-là de
la
déconnexion, encore une fois.
Il ne faut pas mettre en connexion trop étroite le problème de l'argent et le problème du hors-solisme, pour le dire de manière en plaisanterie. Personnellement, moi, j'aime bien les choses simples. Je gagnais plus en tant que médecin des hôpitaux en fin de carrière que comme député. Donc le sujet n'est pas là. Premièrement, je crois en effet pour le problème de l'argent. En ce qui concerne, un, les revenus, le patrimoine, les conflits d'intérêts, mes deux interlocuteurs ont raison. Il faut être exemplaire. Ce que je voudrais, c'est que ce soit vraiment un exemple et que les citoyens se disent, est-ce que ne devons-nous pas être nous aussi exemplaires, parce que le sort de la France est entre nos mains et dépend de cette exemplarité.
Mais alors c'est quand même intéressant ce que nous dit Michel Delaunay, parce qu'elle nous dit, je gagnais plus en n'étant pas en fonction...
Emmanuel Macron probablement aussi.
Voilà, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle tant de déconnexion et comment est-ce qu'on peut défaire cette déconnexion? Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles pour un élu quand il a un mandat? Est-ce que là-dessus, il n'y a pas des pistes auxquelles on réfléchit, Philippe, parce que vous en avez?
Oui, j'en ai des pistes, il faudrait des contrôles. Comment ça se fait que dans certains pays, je veux dire, quand on vous donne de l'argent, vous êtes obligé de le justifier, alors qu'en France, on donne de l'argent aux élus, ils en font ce qu'ils veulent. Aucune justification, aucun contrôle. Les RFM, aucun contrôle. La réserve par... L'IRFM, excusez-moi Christophe, aucun contrôle. La réserve parlementaire, 130 000 euros pour les députés, plus de 150 000 euros. On donne, mais on est public depuis quand, Christophe? Depuis 2013.
Oui, nous avons fait 2013. Beaucoup de choses depuis
2012. Et en attendant, c'est quand même quelque chose qui est complètement illégal et qui amoindrit, je termine, qui amoindrit le pouvoir du Sénat et des députés. Quand vous êtes là d'une réserve parlementaire et que les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de moins pour la décision des députés. Et c'est complètement immoral. C'est du truc qui se fait uniquement sur l'arbitraire. Je veux dire, j'ai découvert un monsieur qui est sénateur qui avait 13 900 euros par mois au black. 13 000.
Mais pourtant, il existe déjà un plafonnement, puisqu'en cumulant plusieurs fonctions.
Ça, c'est pipeau. Estrosi, sa déclaration aujourd'hui, elle est pipeau.
Je veux quand même dire ici que le statut des parlementaires, aujourd'hui, a beaucoup évolué.
Mais on est d'accord.
Il a beaucoup évolué.
Mais d'abord,
par exemple,
l'indemnité personnelle du parlementaire, qui a été créée par Philippe Séguin dans les années 90, par exemple, n'a jamais été réévaluée. Jamais. Revalorisée. Jamais. Elle n'a même pas été revalorisée de l'inflation.
Elle est de combien,
donc
Christophe,
je veux dire,
Christophe, elle est
à peu près de 5 000 euros.
5 770 euros.
Oui, d'accord.
Très honnêtement, heureusement qu'elle n'a pas été revaluée.
Mais attendez, je ne dis pas que c'est bien ou pas.
Non, non.
Je dis qu'aujourd'hui, un parlementaire n'a pas la même indemnité qu'il avait il y a 30 ans par rapport au pouvoir d'achat, etc., etc. Bon, on a sur les retraites aussi remis le régime des retraites des parlementaires, notamment, enfin, l'Assemblée nationale en particulier. C'est vrai que le Sénat, il y a peut-être des petites particularités qui mériteraient d'être corrigées, mais pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, le régime de retraite aujourd'hui a été aligné sur le régime général, je crois qu'il est acceptable. Sur d'autres sujets, sur l'IRFM, c'est vrai qu'il y a eu des abus, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, on a une instruction du bureau de l'Assemblée nationale sur l'utilisation de cet IRFM et on a un contrôle qui peut être exercé par le déontologue de l'Assemblée nationale sur l'IRFM. Donc il y a des choses qui sont faites et qui sont en train d'évoluer.
Je crois qu'on a bien compris que vous êtes tous les deux d'accord pour dire que...
Mais moi, je suis d'accord avec ça, c'est à chaque fois on entend ces mots-là, qui peut. Mais le problème, c'est que les contrôles ne sont pas faits. Et moi, j'en ai les preuves que les contrôles
sont faits. Donc, vous voulez plus de contrôle et vous dites que ça avance. Je voudrais poser une question à Michel Delaunay. Est-ce que, on a parlé de cette expression, la professionnalisation de la vie politique, est-ce que pour lutter contre cette supposée déconnexion, puisqu'en fait, on parle d'un sentiment des électeurs, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire, par exemple, le nombre de mandats pour chaque élu, être plus strict de ce point de vue-là? Est-ce que ce ne serait pas une réponse?
Alors, en effet, pour ma part, je suis favorable à pas plus de 3 mandats identiques dans le temps. Et je suis en effet très positive parce qu'un des problèmes, c'est que si un élu n'est pas justement réélu, il a beaucoup de mal, à tout point de vue, mais même dans sa tête, à retourner à la vie entre guillemets normale. Et ceci est une question tout à fait majeure. Quand on est dans ce tunnel, comme je l'ai dit à un moment, c'est très difficile d'en sortir. On a d'une part une certaine notoriété, un capital social, comme on dit, des échanges extrêmement séduisants, parce que globalement, le monde politique est un monde assez stimulant intellectuellement.
Vous pensez qu'il faudrait mettre en place une sorte de dispositif pour amener l'élu à mieux se réinsérer? Christophe Caresch, est-ce que le mandat unique serait pas aussi une solution? Ou alors, allez-y.
Alors, d'abord, il y a le cumul, avant de parler du cumul dans le temps, qui pose d'autres problèmes, notamment constitutionnels, je le dis au passage. Mais peu importe, sur le cumul aujourd'hui des mandats, on a quand même là aussi, à partir de 2017, il ne sera plus possible de cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat d'exécutif local.
On peut cumuler d'autres mandats.
Mais les exécutifs locaux, c'est très important,
c'est encore,
parce que le système politique français est quand même assez, comment dirais-je, assez basé. Et ce que dit Michel sur la reproduction des élus, etc., est lié quand même au contrôle de situations politiques localement et nationalement. Bon, ça sera fini à partir de 2017. Bon. Donc voilà, donc là aussi,
vous
on
vous
avance.
Dites, on a fait des progrès, on avance.
On avance.
Un mot, Philippe Pascaud. 5 secondes.
5 secondes, ça va être dur. Le fait du non-cumul des mandats, c'est pipeau, parce qu'il y aura encore plus d'élus, on va encore verser plus d'indemnités.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Philippe Pascaud. Merci également à Christophe Caresch. Merci à Michel Delaunay qui était à Bordeaux. Merci à Alexandre Serre, à Valentin Vaner. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.